Chers amis, je vous rappelle que vous êtes toujours sur les ondes de la radio Sputnik et on discute de la Grande Guerre patriotique et de la Seconde Guerre mondiale qui est traitée dans différents manuels de différents pays de manière différente. Et je pense que c'est ça le problème, c'est ça la complicité des choses parce que on présente l'histoire dans des pays différents de manière tout à fait diverse et c'est pour cela qu'on ne peut pas s'accorder sur un tel ou tel événement, sur l'issue d'un tel ou tel événement. Et c'est ça aussi le problème quand on parle de la victoire dans la Seconde Guerre mondiale, parce que comme le montrent les sondages, les récents sondages, y compris le sondage de Radio Sputnik, que actuellement, les Européens considèrent et attribuent la victoire aux Américains, qui d'ailleurs ont participé, pas dès le début de la guerre, mais deux ans plus tard. Et on ne mentionne pas les pertes qu'a subies l'Union soviétique pendant cette guerre. Donc, c'est vraiment difficile et c'est un sujet très délicat, je pense.
Je partage votre avis parce qu'on a eu, il n'y a pas longtemps, la preuve que l'appréciation d'événements historiques peuvent être très divergents. Et en plus, c'était l'appréciation des faits historiques beaucoup moins éloignés de nous dans le temps que la fin de la Seconde Guerre mondiale. Moi, je parle de la réunification de l'Allemagne. Donc, ça a eu lieu le 3 octobre 1990. Et récemment, on a eu une grande fête à Berlin, bien entendu, sur le fond de Porte de Brandenburg, où Angela Merkel a invité plusieurs personnages qui elle considérait nécessaire pour fêter cette fête-là. Donc bien sûr, il y a eu les Américains. Sauf que, et moi je suis tombée par hasard sur une très bonne vidéo d'un politologue allemand qui, encore une fois, sur le fond de Porte de Brandenburg, a prononcé un discours qui a remis les points sur les i, tout simplement, qu'il a dit que les premiers à qui les Allemands devraient avoir à dire merci pour cette réunification, c'était toujours les Soviétiques et les Russes. Parce que, donc je vais rappeler à nos auditeurs que suite aux conventions de la fin de la Seconde Guerre mondiale, il y a eu l'Union et le contrôle sur l'Allemagne de la part des pays alliés, pays vainqueurs. Donc cela veut dire que toute solution, toute décision politique sur l'unification ou désunification de l'Allemagne devait être prise en commun entre l'Union soviétique, l'Angleterre, la France et les États-Unis. Ouais. Et donc c'était en 80, dans les années 80, fin années 80, que Mikhail Gorbatchev a commencé à rencontrer quelques leaders allemands aussi, essayer de parler de cette unification, l'unification de l'Allemagne. Parce que sans l'autorisation de l'Union soviétique, elle ne pouvait pas avoir lieu tout simplement. Et c'est une chose, donc finalement, donc bon, on l'a pas mal reproché également à Gorbatchev d'être pas suffisamment, je dirais, intéressé économiquement, parce que on aurait pu obtenir les résultats économiques, donc la réparation de cette unification envers la Russie, tandis que rien n'a été demandé, c'était fait d'une manière gratuite, c'était comme un geste de bonne volonté. Mais effectivement, sans cette décision politique de la part de l'Union soviétique, l'Allemagne serait restée toujours là. Nous, on reste à l'image de la destruction de la mur du Berlin, à cette joie, bien sûr, normale, tout à fait appréciable de populations allemandes. Donc, c'est normal qu'ils soient réunis au bout de certains temps. Mais, encore une fois, c'était sans la Russie, rien n'était possible. Ouais. Et on oublie ça facilement. Et les premiers à l'oublier, c'est les Allemands. Donc, parce que c'est une vérité incommode. Tout comme la vérité est peut-être incommode que ce soit l'Union soviétique qui a gagné la guerre, bien sûr, avec l'aide des alliés dont on a abondamment parlé. Et je pense que c'est souvent, bon, on voit pas beaucoup de choses sur le devant de la scène. Il y a une grande partie de la politique qui se joue en coulisses, se joue dans les couloirs. Mais il faut que, à chaque fois, on ramène un peu la vérité sur le devant de la scène, que ça soit pas oublié, que ça soit toujours, qu'on garde dans le coin de la tête quelque part, que les choses ne sont pas forcément telles qu'on les présente actuellement.
Oui, tout à fait d'accord avec Oksana, vous. Eh bien, moi, je pense qu'en analysant les événements d'il y a 70 ans, il faut pas oublier que, quand même, l'Occident a redouté le RSS parce que c'était vraiment une puissance militaire, ça faisait peur. Même maintenant, quand on voit les sondages et les ratings, par exemple, celui de The National Interest, c'est un journal américain qui a dressé donc un rating de puissance, superpuissance historique, et parmi eux on peut voir l'URSS. Donc on les remercie pour ça, mais bon, c'est vrai que c'est aussi la source des problèmes, la superpuissance de l'URSS, et on reproche beaucoup à Staline. Oui, c'est vrai que c'est une personnalité controversée, on peut pas le juger. Il faut, je pense, comme l'histoire, il faut voir de tous les côtés, il faut analyser tous les actes de cet homme. Mais bon, je suis d'accord avec M. Guis que sans Staline, peut-être on n'aurait pas pu gagner cette guerre, parce qu'il a su, dresser un système économique, militaire, social, etc. Pendant la guerre, aussi bien qu'avant la guerre, pour qu'on puisse vivre et continuer de vivre et gagner enfin. Donc, je pense que Monsieur Guis nous a livré une très bonne analyse, surtout qu'il a présenté certaines pages de l'histoire qui sont pas connues en Europe. Par exemple, cette guerre entre l'URSS et le Japon, guerre non proclamée d'ailleurs, en 1939, qui on n'a pas proclamé cette guerre. Et d'ailleurs, 100 000 personnes ont participé dans cette guerre. Et on estime que si la Russie à cette époque-là, comment dirais-je, avait été enrôlée dans cette guerre, elle n'aurait pas pu combattre sur deux fronts. Et c'est pour ça donc qu'il faut aussi savoir cette page de l'histoire, et il faut se concentrer également sur cette histoire qu'on nous reproche, c'est le pacte Ribbentrop-Molotov. On en parle beaucoup aujourd'hui d'ailleurs, parce que c'est comme une riposte à nos déclarations sur la victoire de l'URSS. On nous reproche ce pacte, mais comme l'a très bien expliqué Monsieur Guis, il y a eu des raisons, et raisons géopolitiques, surtout que l'Occident, l'Europe, les pays européens ne voulaient pas collaborer avec Staline, tout simplement. Voilà.
Il y a, on en a parlé ce matin d'ailleurs, dans un cadre totalement différent, à cette notion philosophique de la part du bien et du mal dans chaque personne. Parce que finalement, le caractère ou le résultat de l'action politique dans ce monde, d'un homme politique ou de quelqu'un d'autre, ou d'une personne tout simplement lambda de notre quotidien, n'est pas la somme de tous ces actes positifs et négatifs, n'est pas la somme n'est pas une moyenne de tous ces apports bons et mauvais. Ça existe parfois d'une manière parallèle. Donc vous avez parlé de Staline. Staline a fait quand même gagner la guerre à l'Union soviétique, mais en même temps, il a exterminé des milliers et des millions de personnes dans les mêmes camps de concentration. Et c'est pour ça qu'on a du mal aussi à déterminer Staline. Est-ce qu'il faut le vénérer, comme font chacun? Pour moi, non. Où il faut le condamner comme un mal incarné. Voilà. C'est pas quelque chose qui fait la somme et le résultat, mais dans chaque personne, malheureusement, vivent les deux parties de cette expression du mal et du bien.
Oui, mais je pense qu'il y a deux côtés en fait. Il y a le côté historique et le côté humain. Et ce qui compte pour l'histoire, c'est l'apport de la personnalité historique à cette histoire-là. Et je pense que c'est le cas de Staline notamment, parce que maintenant, quand on analyse, comment dirais-je, sa gouvernance, on voit qu'il y avait quand même beaucoup de... Il apportait du bien au pays, mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de victimes quand même. Et je n'insiste pas sur la réhabilitation de Staline. Juste pour nous, c'est l'histoire, c'est une personnalité historique qu'on on se souvient de Staline et de cette époque-là parce que c'est une part qui est propre à nous et à notre peuple russe. Voilà.
Mais je pense que c'est, on a du mal, de toute façon, c'est bien pour ça qu'il y a eu de temps en temps les reflux, quelque part, de stalinisme aussi en Union soviétique, enfin en Russie, excusez-moi. Mmh. Récemment, il y a un monument qui est ouvert aussi, à Perm, si ma mémoire est bonne, d'un buste de Staline. Donc, et ce qui
on
aurait
plusieurs
pu...
Plusieurs Lénine, par exemple,
mais
aussi.
Lénine, enfin, ils n'étaient pas détruits partout. Tout simplement, mais le retour de Staline, c'est parce que ce qui était inimaginable il y a une dizaine d'années, aujourd'hui est possible. Donc le maire de Perm m'a dit carrément je vais tenir, dresser la garde à côté de cette statue, mais pour l'instant il n'y a pas eu d'acte de vandalisme contre. C'est-à-dire qu'il y a l'évolution également d'appréciation de la personnalité historique tout simplement. Donc encore une fois, il faut qu'on vous dise, rien n'est tout noir, on est tout blanc. Et bon, et chacun après décide pour soi.
Oui, mais quand même, il faut pas oublier qu'il existe aussi des manuels et des manuels historiques où on a les pages sur les répressions, sur tout ce qui a été commis par Staline en tant que dirigeant de l'URSS.
Ouais, de toute façon, ça on peut pas le nier.
Oui, justement. Chers amis, je vous rappelle que vous êtes à l'écoute de la radio Spoutnik. On écoute un petit peu de musique et on revient.